Bonsoir Jean-Félix.
Bonsoir.
On parlait depuis le début de la semaine de tout ce qui peut être invisible. Alors c'est souvent la maladie et ce sont souvent les souffrances et par exemple les traumatismes. Et s'il y a bien des traumatismes qui restent à jamais présents dans la vie des uns ou des unes, c'est celle d'une guerre. Et quand on parle de guerre, on peut parler même pour certaines de ces guerres de génocide. Et ça a été le cas au Rwanda que vous connaissez puisque vous y étiez en 1994. Et ça a inspiré votre envie d'écrire, non pas le livre, oui bien sûr, d'écrire tout court, mais parce qu'il y en a eu d'autres avant, d'écrire ce livre qui s'appelle Magnifique, édition Télémaque, un roman qui se passe pour la plupart du temps entre le Rwanda et la Suisse, du reste. Quel est votre lien avec la
Ouais.
Suisse, Jean-Félix? J'ose vous poser la question comme ça?
Mais non, mais c'est une question très drôle. J'en ai aucun. Je n'ai absolument pas la Suisse. J'ai vécu un peu dans le monde entier. Je ne fais que la traverser de temps en temps parce que j'ai de la famille à Chamonix. Et donc, très souvent, on m'a posé beaucoup de questions sur ce livre. On a évidemment imaginé que ma femme était tutsie. On a imaginé que, évidemment, je vivais en Suisse. Toutes sortes de choses qui sont toutes fausses. Et donc, je ne connais rien de la Suisse sauf quelques heures, de temps en temps. Voilà. J'ai peu lu sur la Suisse, donc ce ne sont même pas des souvenirs de lecture. Voilà.
Et pourtant, c'est assez précis, y compris les endroits où votre héros habite. Enfin, votre héros, votre héroïne s'appelle Magnifique. On peut dire héroïne parce qu'héroïque, hein. Magnifique qui est à l'image de tant de femmes et d'hommes rwandais, tutsis en particulier, qui ont été victimes de ce génocide. Quand vous étiez là-bas en 1994, quel était le sentiment qui était le vôtre?
Je vais vous dire le sentiment qui était le mien, c'est un sentiment très particulier, c'est que moi je suis arrivé à un moment où le pays était vide. Et donc c'était un sentiment de tout d'abord de bêtise, j'avais 20 ans, j'étais très bête, donc je ne comprenais absolument pas ce qui se passait, de naïveté, je ne comprenais pas très bien où je mettais les pieds, et de surprise, parce que j'ai atterri à Bujumbura, enfin au Burundi, le pays était en guerre, donc on ne pouvait pas atterrir au Rwanda, et on a passé un peu de temps à Bujumbura, et puis pour rejoindre Gikongoro, qui était la base des humanitaires, on a traversé un pays complètement vide, et je me souviens, ça avait un air d'Apocalypse Now, de ces traversées, des journées entières, dans ce pays qui était surpeuplé. Je vous rappelle que c'était une des causes du génocide, hein, c'est le surpeuplement, c'est les Hutus qui disent, il y a trop de Tutsis, on est trop nombreux, il va falloir qu'on supprime une partie de la population. Donc dans ce pays qui était censé être surpeuplé, de passer des journées sans croiser un seul habitant.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Parce que vous avez eu d'autres expériences humanitaires, en particulier au Darfour, pour Médecins sans frontières, en Tchétchénie. Vous avez même, si je me souviens, été à la tête d'un journal à Moscou. Et puis, il y a à peine, je crois que vous avez fait une mission pour MSF en Irak, il y a pas très longtemps,
Oui,
hein, si je
tout
me
à fait.
souviens pas, si je me
Oui,
souviens bien.
tout à fait. Il y a quelques mois. On ne sait jamais pourquoi on écrit. Je suis toujours frappé quand j'entends des auteurs qui disent, oh, ben, j'ai écrit ça à tel moment de ma vie. On ne sait absolument pas. Et on m'a fait remarquer, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, que Magnifique écrit 28 ans après les faits et que j'ai écrit ce livre 28 ans après les faits. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un moment où certaines choses, il y a une forme de sédimentation, ressortent. J'ai tourné autour du Rwanda. J'ai écrit cinq romans, enfin quatre romans avant, et je sais que je tournais autour, que le sujet du Rwanda revenait, etc. Mais pour autant, à aucun moment, aucune voix ne s'est imposée. Et puis un jour, moi, vous savez, j'écris, je réécris, en fait. J'écris ce que j'entends. J'ai à l'intérieur de moi-même les voix que j'entends. Et j'entendais une voix qui était la voix d'une jeune fille à qui il était arrivé tout ça, et j'ai retranscrit cette voix. Pourquoi à ce moment-là, je ne sais absolument pas. Certains m'ont dit qu'il fallait du temps pour que tout ça soit absorbé par ton être, ta sensibilité. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. J'en ai aucune. C'est très difficile. Hein. C'est une question qu'on m'a souvent posée et très difficile d'y répondre.
Jean-Félix, vous connaissez bien le post-traumatique, évidemment, avec toutes les missions que vous avez faites, y compris pour des gens qui sont en mission, mais là, on parle bien de magnifique et de ce post-traumatique. C'est un mot qui est même pas assez fort par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu.
Alors, je vais vous faire une confidence. Je ne le connais absolument pas, le post-traumatique, parce que j'ai été dans plein de terrains, mais au fond, je pense qu'on ne connaît les choses que quand on les a expérimentées soi-même, et je n'ai pas expérimenté, pour donner des exemples tout bêtes, la guerre sur ma famille, ni l'extermination de ma famille, etc. En revanche, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai été contacté par une psychologue éminente française qui m'a dit « mais en fait, ce livre me sert pour mes cours ». Voilà, c'est un modèle de... j'étais très surpris de ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que peut-être d'autres traumatismes, peut-être des lectures, etc., m'avaient permis d'écrire cette voix, de décrire ce que ressentait Magnifique. Il y a quelqu'un qui m'a dit... À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle sent qu'il y a comme une partie d'elle-même qui tombe à l'intérieur d'elle-même. On m'a dit, voilà, c'est un des symptômes, les gens traumatisés, d'avoir un moment de s'écrouler en soi-même. C'est un sentiment que j'ai ressenti, moi, à certaines occasions de ma vie. Pour autant, j'ai pas subi ce qu'a subi Magnifique. Et j'étais très surpris, pas de la facilité, parce que je travaille beaucoup, mais du fait que cette voix se soit... écouler en moi avec une telle facilité. C'est-à-dire que pour beaucoup de passages, c'est des passages que j'ai écrits en quelques mois et qui s'écoulaient comme ça, qui sont toute la première partie du livre. La deuxième partie, enfin plutôt le dernier quart, et surtout son histoire d'amour avec son mari, m'a demandé au fond plus de travail, c'est peut-être moins naturel, alors que la partie où elle raconte ce qui lui est arrivé et qu'elle raconte comment elle arrive en Suisse et qu'elle raconte comment tout ça remonte, ça m'a été très naturel. Sans que je puisse répondre à votre question initiale, qui était, mais au fond, vous connaissez tout ça, est-ce que vous vous êtes servi ? Non, je ne connais pas tout ça et je n'ai pas de connaissances ni scientifiques, ni même expérimentales en la matière, parce que je vais vous dire, dans tous les endroits où je suis allé, j'ai traité des gens, etc., mais pas dans le domaine psychologique. J'ai dirigé des missions, j'ai parlé avec des gens, mais je n'étais pas dans le traitement du post-traumatique. J'ai été dans des missions d'urgence où c'était plutôt de l'urgence première et pas de l'urgence psychologique.
Est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, de victimes aujourd'hui qui ont survécu ? Parce que quand même, des victimes qui n'ont pas survécu, il y en a eu des centaines de milliers, on est bien d'accord. Hein ? De victimes qui ont survécu et qui ont lu votre livre et qui s'y sont reconnues. Parce que nous, on a eu des témoignages, je vous cache pas, dans cette émission de la Ligne de cœur, de femmes en particulier qui avaient vécu ça et qui racontaient ça et qui vivent en Suisse aussi. Ouais. Je me suis dit, tiens, bon, voilà.
Vous me faites très plaisir en posant cette question, parce que je discutais aujourd'hui avec mon éditeur et il y a une femme que vous connaissez sûrement, parce qu'elle a écrit des livres éblouissants, qui s'appelle Scholastique Mukatsunga, qui a écrit notamment Notre-Dame du Nil, qui est une autrice française d'origine Tutsi, d'origine rwandaise et Tutsi, dont la famille, 34 membres de la famille ont été tués pendant le génocide, et qui a écrit des livres qui tournent beaucoup autour de ça, et qui est quelqu'un de tout à fait reconnu. Elle m'a écrit cette phrase qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, parce que pour moi, c'est le plus bel éloge, et je vais vous dire pourquoi ça m'a beaucoup marqué, parce que j'avais un peu peur qu'à un certain moment, on me dise, mais au fond, c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'on a ressenti les choses. Elle m'a écrit « Magnifique, m'a beaucoup ému, j'ai souvent marché à ses côtés ». Voilà. Ça m'a beaucoup... Je me suis dit que la voix de Magnifique était juste. Et il y a d'autres gens, alors, pour répondre à votre question, qui ne sont pas des victimes, mais qui sont des grands prêtres de la littérature française, comme Jérôme Garcin ou Olivier de Lamberterie, qui ont tous les deux écrit « C'est une voix juste du début à la fin ». Et ça, c'est quand on... Donc, j'ai eu évidemment quelques remarques de gens qui ont subi soit des génocides, soit des massacres, ici ou ailleurs, et qui m'ont dit que rien ne les avait choqués. À aucun moment, ils s'étaient dit « Ah, c'est une construction », quelque chose comme ça. Mais ce témoignage de Scholastique Mukatsunga m'a beaucoup marqué, parce qu'elle a vécu tout ça, s'est échappée, et écrit sur ça depuis 30 ans. Donc, c'est peut-être la personne la plus légitime pour me faire une remarque sur la question. Donc oui, j'étais très, très touché par ça.
Il y a une autre chose dans votre livre que l'on ressent un peu depuis le début, mais comme vous le disiez dans la dernière partie, ça s'imprime très fort, c'est que l'amour finalement est plus fort que tout.
Oui, vous savez, on m'a dit, mais au fond, vous avez une œuvre sans espoir. J'ai écrit un premier livre sur un jeune garçon qui se perdait au Cambodge, un deuxième sur un enfant violé en France dans les années 60, un troisième sur un grand duc russe en exil, qui finissait sa vie en Suisse d'ailleurs, un quatrième sur Marilyn Monroe, et le cinquième qui est Magnifique. Et Magnifique, c'est un tournant. C'est un tournant parce qu'il y a un espoir. Et on me dit, mais où est l'espoir ? Alors, il y a évidemment... cette histoire d'amour, mais pour moi, l'espoir, il réside dans cette scène. Quand il y a un représentant du CICR de 25 ans qui est à son bureau, qui s'emmerde un peu et qui se dit « bon, je vais aller signer des papiers à l'hôpital », et qui voit qu'on descend un brancard d'un camion, qui laisse tomber son crayon et tombe amoureux de cette femme, lui parle des nuits entières alors qu'elle n'a jamais ouvert la bouche, qu'elle n'a jamais ouvert les yeux, tombe fou d'elle, revient en Suisse avec elle, à la vie qu'ils ont. Et ça, c'est, il est là pour moi, l'espoir. Et quand on m'a beaucoup parlé de ce livre avec tout ce qui se passe en Israël, avec le Hamas, etc., en me disant, mais au fond, il n'y a pas d'espoir en l'homme, quoi. Et je crois qu'il y a en chacun d'entre nous autant de bien que de mal. Et qu'on laisse se révéler l'un ou l'autre, qu'on travaille à révéler l'un ou l'autre, qu'on laisse les circonstances révéler en nous l'un ou l'autre. Ils sont pas, ces outils, ils sont pas meilleurs que nous, ils sont pas moins bons, ils sont pas meilleurs. C'est d'ailleurs un dialogue qui a dû vous marquer, parce que c'est un Suisse, c'est entre deux Suisses au fond, c'est entre Simon et entre l'oncle Simon et le héros et Jérôme, où ils discutent du mal, en disant mais au fond nous, on a pris la paix, mais en fait si on n'avait pas choisi la paix il y a un siècle, ben on serait en train de s'étriper entre Genevois et Zurichois, et c'est probable. Je crois que le mal commence quand on pense qu'il y a plus de mal chez les autres que chez nous-mêmes. Moi, je pense que j'ai la même capacité à faire le mal qu'un bourreau ou tout, mais j'ai eu de la chance. J'ai pas été dans certaines circonstances. J'ai peut-être lutté à certains moments. Mais qui peut dire que dans certaines circonstances, il n'agirait pas comme eux? Voilà. Qui lance la première pierre. C'est exactement ça. C'est vraiment, voilà, on n'a pas été dans ces, on n'a pas été dans ces conditions-là. Donc, je crois que commencer à juger, c'est déjà le mal qui commence. Voilà, je suis convaincu, de plus en plus convaincu de ça.
Même si il est toujours difficile de pardonner au bourreau, parce que là, on est quand même confronté à un génocide, et il y a un moment donné dans votre livre où il y a une confrontation sur un plateau de TV, entre un chercheur, entre guillemets, Hutu et magnifique, on se dit qu'on n'est pas loin du négationnisme quand même, par moment, non?
Ah oui, on est même, il est, je vais vous dire, c'est une scène très réussie, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu du mal à la finir tellement ils étaient oppressés par le chercheur. tellement il est violent qu'ils étaient comme magnifiques. Il y a des gens qui m'ont dit, je suis sorti de la scène, j'en pouvais plus. Et donc, évidemment, je suis pas un apôtre du pardon. Enfin bon, je pense que d'ailleurs il y a une autre scène. C'est ce responsable du génocide qui est à La Haye et qui se plaint que les plats sont trop gras et qui n'a aucune compassion d'aucune sorte sur les centaines de milliers de gens qu'il a fait. Je pratique pas du tout l'angélisme. Je pense qu'il faut évidemment évidemment que les bourreaux soient punis. Ce que je veux dire, c'est que Quand on me dit, mais au fond, est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce que c'est tout ça? Oui, je crois qu'il y a de l'espoir en chacun d'entre nous, si on travaille au bien, chacun d'entre nous, c'est très facile à dire, hein, on sait très bien, nous tous, moi le premier, que sous le coup de l'énervement, on va avoir, voilà, des attitudes, des phrases, parfois brutales, parfois violentes, donc, voilà, mais vous avez tout à fait raison, les bourreaux ont été dans cette affaire d'une cruauté infinie. Et d'ailleurs, pour la plupart, en s'en fichant, il y en a beaucoup qui s'en fichent. On a vu ça dans les livres de Jean Hatzfeld. C'était comme ça, oui, on n'avait pas le choix. C'est peut-être le pire de faire ça et ensuite de s'en foutre. C'est peut-être ça encore la pire des horreurs.
Jean-Félix, on vous remercie d'être venu. Une toute dernière question, qui n'est pas directement liée à votre livre, mais est l'humanitaire aujourd'hui dans tout ce qu'on vit, alors on a parlé du Proche-Orient, on peut revenir sur l'Ukraine parce que c'est encore bien présent, et puis c'est pas près de s'arrêter. L'humanitaire dans tout ça, pour vous,
L'humanitaire dans tout ça, j'allais dire, non pas prend, mais reprend toute sa valeur. Il y a toujours le monde politique, il y a le monde des affaires, et puis il y a un monde qui se dit, on va pas commencer à juger les gens, on va pas commencer à savoir, on va juste aller là où ça fait mal et aller traiter les gens. Et je trouve ça très reposant d'une certaine manière. Je me souviens quand j'étais dans le Darfour, il y a des gens qui étaient très favorables aux rebelles, d'autres qui étaient favorables au gouvernement. Et moi je soignais les gens qui prenaient des bombes sur la gueule. Et ben, dans ces cas-là, vous vous dites, au moins je me trompe pas. Moi, je suis pas en train de soutenir un parti. On vous explique que les rebelles sont formidables et on s'aperçoit qu'ils, ben, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont pas mieux que ceux qui étaient là avant. Et je trouve qu'il y a dans l'humanitaire une sorte d'évidence. Vous savez, c'est le SAMU, quoi. Il y a un accident, le SAMU arrive. Ensuite, vous pouvez faire plein de trucs, mais s'il n'y a pas de SAMU, les gens meurent. Et ben, je trouve, comme on m'explique, peut-être à raison, que le monde va assez mal, qu'il y a de plus en plus de guerres et de plus en plus de terrains, de conflits, etc., que l'humanitaire a une valeur éblouissante.
Oui, comme disait
Mère Thérèse, c'est qu'une goutte d'eau. Vous êtes un représentant avec le CICR en Suisse, donc vous avez la palme en la matière, la palme originelle, donc vous connaissez.
Oui, comme disait Mère Teresa, c'est qu'une goutte d'eau dans la mer, mais la mer ne fait que de gouttes d'eau. Merci beaucoup Jean-Félix.
Exactement.
De la ville Beaugé.
Merci à vous.
Auteur
Merci
de Magnifique, d'un roman absolument splendide aux éditions Télémac. À bientôt, j'espère.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
À bientôt.